Aujourd'hui, nous arrivons au dernier chapitre de ce prophète Ésaïe, le chapitre 66. J'ai commencé cette série en septembre 2016, donc il a fallu à peu près 4 ans pour balayer tout ce grand livre du prophète Ésaïe. Et nous arrivons donc au terme de ce livre, et comme j'ai dit la semaine dernière, en parlant de Ésaïe 65, nous sommes devant une perspective glorieuse de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Et je répète un peu ce que j'ai dit la semaine dernière pour le mettre dans son contexte. Hein. Donc, Ésaïe lui-même vivait à l'époque des Assyriens, de l'Empire Assyrien, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 39. Il est contemporain de l'invasion assyrienne qui s'est attaquée à Jérusalem. Il a vu une grande délivrance de la part du Seigneur. Mais à partir du chapitre 40, Ésaïe voit beaucoup plus loin. Il voit non seulement la fin de l'empire assyrien, mais il voit un nouvel empire arriver, les Babyloniens. En fait, il voit que le peuple de Juda sera déporté à Babylone, mais il voit aussi son retour au pays, son retour à Jérusalem. Et la description des bénédictions de ce retour dépasse en fait tellement la réalité sociale et politique de l'époque, et même depuis, parce que Israël et Jérusalem n'ont jamais connu en fait autant de paix, de prospérité depuis tous ces siècles. Donc ça dépasse tellement que l'on comprend que le prophète prend son envol à la fin de ce livre pour voir bien au-delà de son époque et même du siècle suivant, et il voit jusqu'au dénouement de l'histoire, ce qui est confirmé par le Nouveau Testament. Parce que, comme nous l'avons vu la dernière fois, le nouveau ciel et la nouvelle terre est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament avec un petit peu plus de détails, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, de nouveau, au début de ce chapitre, Ésaïe revient vers l'attitude qui convient d'avoir envers Dieu. Et je dirais que c'est un acte grave de ne pas avoir une attitude juste devant Dieu. Je lis donc les versets 1 à 6. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire? Quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Mais voici sur qui je porterai regard, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Celui qui égorge un bœuf abat un homme, celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande verse du sang de porc, celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi, je choisirai de les abandonner à leurs caprices, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent, qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, que nous voyons votre joie. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Un tapage provient de la ville, un bruit sort du temple. C'est celui que fait l'Éternel en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. Au verset 1, Ésaïe décrit toute la grandeur de Dieu. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Il pose la question, dans quelle maison pourriez-vous me construire? Certes, en revenant de l'exil à Babylone, il devait reconstruire un temple à Jérusalem. Ésaïe n'est pas contre, au contraire. Mais comme Salomon, lors de l'inauguration du premier temple, a dit, mais Comment Dieu pourrait habiter cet endroit? Même le ciel ne peut pas le contenir. Parce que, au fond, Dieu dit au verset 2, tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Rien n'existerait si lui n'avait pas décidé que tout existe. Il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait pas de galaxie, il n'y aurait pas de terre. Nous n'existerions pas. C'est lui qui a décidé de créer ce monde dans lequel nous vivons notre vie. En revanche, ce qui est normal, c'est ce qui en découle. La deuxième partie du verset 2. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Donc trois choses. Rester humble. Reconnaître ce que l'on est. Avoir l'esprit abattu. Donc pas verser dans un triomphalisme. Moi je sais mieux que les autres. Et qui, troisième chose, qui respecte la parole de Dieu, tout ce qu'il a révélé. Nous avions déjà vu cela au chapitre 57 et le verset 15. J'avais dit à l'époque, en faisant le chapitre 57, que c'est un des versets qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. Ésaïe 57, verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs. J'habite dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de donner vie au cœur brisé. Donc, ce que Dieu veut, c'est une attitude juste à son égard. Et j'ai l'impression que l'humilité est plutôt une denrée rare. Aujourd'hui, et Internet y est pour quelque chose. Tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde sait mieux que les autres. Tout le monde sait mieux que le gouvernement. Tout le monde sait mieux que la direction de la santé. Tout le monde sait mieux que les scientifiques. Et cela se voit dans beaucoup de domaines de la vie. Il m'est arrivé ces derniers jours de faire quelques recherches sur ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet Dunning-Kruger. Donc, la définition, on va dire, un peu scientifique, c'est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés surestiment leurs compétences et ne parviennent pas à se rendre compte de leur degré d'incompétence. Ou pour le dire d'une autre façon, bref, les gens qui ne savent pas ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais dans tout cela, il y en a, au fond, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'attitude. Parce qu'on critique très facilement les autres et on oublie ces mots percutants de Jésus. J'ai parlé de ça récemment, ces mots percutants de Jésus, dont, par exemple, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors, quand on dit, il faut, le gouvernement ment, bah, il ne faudrait pas mentir soi-même. Quand on dit que la police est violente, il ne faut jamais être violent soi-même. Si on veut la justice sociale, il faut être parfaitement juste soi-même pour pouvoir le dire. Donc, l'humilité est nécessaire. Parce que l'humilité fait que l'on reconnaît nos fautes. Et quand on reconnaît nos fautes, on se tourne vers Dieu, on les confesse et on demande son pardon et il accorde son pardon grâce à la victoire remportée par Jésus à la croix, par sa mort et sa résurrection. Donc, si on veut un sauveur, il faut reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé. Et comme on a vu au chapitre 65, l'accès au paradis éternel, le nouveau ciel et la nouvelle terre, ce n'est pas parce qu'on est parfait. C'est parce qu'on a reconnu justement notre imperfection, notre péché. Et l'entrée est accordée par la grâce de Dieu. On ne le mérite pas. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Et pourtant, on a vu dans ce début du chapitre 66 que les gens suivent leur propre voie. Ils trouvent leur plaisir dans des monstruosités, bon, le Sommeur l'a traduit, leurs idoles abominables. Ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, ils font peut-être ils prétendent suivre la loi, ils offrent des sacrifices, mais en même temps, ils brisent la nuque d'un chien, ils versent du sang de porc. En fait, ce que Dieu dit, ok, ils ont choisi de faire cela, mais moi je choisirai de les abandonner à leur caprice. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur. Autrement dit, ce qu'ils ont fait est mal aux yeux de Dieu. On peut faire la différence, même dans notre société actuelle, entre ce qui est illégal ou illégal et ce qui est péché ou pas péché. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui est péché. Et dans Galates 6 et le verset 7, on lit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc Dieu respecte en quelque sorte cette liberté humaine. Si on veut faire autre chose, ok, mais il faut en porter les conséquences. Mais ces personnes-là, selon ces premiers versets d'Ésaïe 66, font preuve aussi de beaucoup de condescendance. Il lance le défi à Dieu se manifester et se moque de ceux qui font confiance à Dieu. Que l'Éternel montre sa gloire, nous voyons votre joie à ce moment-là. Mais le prophète dit, mais c'est eux qui seront couverts de honte à la fin. Alors, poursuivons notre lecture, et c'est là où c'est un peu une entrée en matière avant d'arriver à ce nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est que la paix viendra à Jérusalem. Et dans ces versets, il y a une longue métaphore sur l'enfantement. C'est Sion, c'est Jérusalem qui va accoucher. Une métaphore un petit peu compliquée à suivre à certains égards, je l'avoue, mais on va quand même lire ces versets 7 à 14. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit-on Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi, vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur les bras, caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie, vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe, l'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et fera sentir sa colère à ses ennemis. Donc, comme j'ai dit, c'est une longue métaphore de l'accouchement où c'est Jérusalem qui accouche, Jérusalem qui représente dans ce sens-là le lieu de résidence, la demeure de Dieu sur la terre. Et sans aller dans tous les détails, parce qu'il faudrait trop longtemps pour essayer de tout comprendre dans cette partie du texte. On parle déjà de la naissance d'un fils, et puisque Ésaïe en parle à plusieurs reprises, on peut y voir le Messie, le serviteur de l'Éternel, et qui en quelque sorte, par sa naissance, en un jour, donne naissance à une nation, un pays. C'est-à-dire que par la venue de Jésus, par ses actes, par sa mort, par sa résurrection, tout un nouveau peuple qui voit le jour, le peuple chrétien, l'Église. Et justement, on voit au verset 8 que si au verset 7 on parle de naissance d'un fils, au verset 8, Sion a mis ses fils au monde. Donc ses fils, C'est le peuple de Dieu et il y a toujours une étroite identification, une étroite association entre le serviteur et son peuple. Je donne deux ou trois références dans le Nouveau Testament hein, qui en parlent. Romains 8, 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, Jésus se présente comme le frère, il est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, pas au même niveau, bien sûr, mais nous sommes en quelque sorte ses frères. Dans Apocalypse 12 et le verset 5, nous lisons toute une. Dans chapitre 12, toute une prophétie sur la femme, le dragon, donc Satan et l'enfant, le dragon qui essaie d'arrêter le salut dans l'œuf en tuant le Messie qui va naître. Donc au verset 5, on dit que le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né, ce qu'il n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Mais au verset 17, on voit la même chose, mais pour d'autres personnes que le Messie. Verset 17, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Donc cette étroite association fait que, dans quelque sorte, Jérusalem, qui représente la présence de Dieu, va au-delà de la naissance et part du fait que, en poursuivant cette métaphore, part du fait que la Jérusalem comme mère ou comme maman s'occupe de son peuple. On voit au verset 11, Ésaïe 66, verset 11, vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Elle nous nourrit. Au verset 12, elle assure la paix, la sécurité. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve. Hein. Il y a un chant que l'on chante des fois, comme un fleuve immense. Et la paix de Dieu qui est basée sur ce verset. Verset 12, vous serez allaités, portés sur les bras, caressés sur les genoux. Donc, c'est la sécurité, c'est la sérénité de l'enfant auprès de sa mère. Et le verset 13, même consolé, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Donc, Dieu donne naissance à son Messie, il donne naissance à son peuple, et après, il continue à être comme une mère, de par Jérusalem interposée, en quelque sorte. C'est auprès de lui, dans son peuple, qu'on est consolé, on est en sécurité, on a la paix. Quelle joie! C'est le verset 14 qui le dit. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie parce que l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. En revanche, la fin du verset 14, il ferait sentir sa colère à ses ennemis. Et avant de parler donc de cette nouveau ciel et cette nouvelle terre, il y a une petite parenthèse. Les versets 15 à 17, où de nouveau il y a ce contraste avec le jugement des pécheurs. Je lis les versets 15 à 16. Oui, voici l'Éternel. Il arrive dans un feu. Ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier, ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature, et ses victimes seront nombreuses. Ceux qui se consacrent, ils se purifient pour aller dans les jardins en disciples de l'idole qui est parmi eux, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses, des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Donc, la colère de Dieu se manifeste. Mais attention, la colère, ce n'est pas comme la colère d'un être humain qui, comme un fleuve justement, déborde des fois, quitte son lit et se répand un peu partout. Dieu maîtrise sa colère parce que sa colère, la colère de Dieu, c'est son opposition implacable envers tout péché. Car le péché nous dégrade. Le péché, en fait, vise Dieu derrière les apparences d'un choix personnel. Et Dieu juge toute créature, verset 16. Et comme je l'ai déjà dit, n'oublions pas que le chrétien y échappe, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce que finalement, c'est dans l'évangile, dans la grâce de Dieu, qui est la sortie. Hébreux 2 et le verset 3 posent une question très claire à ce sujet. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc ce salut annoncé par le Seigneur est confirmé par ceux qui l'ont entendu, donc les apôtres. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc il y aura la disparition de l'idolâtrie, tout ce qui est mentionné au verset 17. Vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière, l'idolâtrie, c'est ce en quoi on place son affection et sa confiance plus qu'en Dieu. Et donc, il pensait, certains l'affirment en tout cas, beaucoup de gens qui disent, mais Dieu est là-haut, il ne s'intéresse pas à nous, alors que les idoles, les dieux de la localité, les puissances locales, c'est eux qui s'occupent de nous, il faut en quelque sorte les mettre dans sa poche, en faisant tout pour qu'ils soient de notre côté. Alors que, en fait, ils oublient le Dieu souverain, véritable, tout-puissant. Et c'est là qu'on arrive à la fin du prophète Ésaïe, de nouveau, à cette évocation de notre avenir glorieux. Je lis donc du verset 18 jusqu'au verset 24. Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations. Tarsis, Pul et Lud, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce, les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi ni vu ma gloire. Ils révéleront ma gloire parmi les nations. Et ils amèneront tous vos frères, issus de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Tout comme les Israélites amènent leur offrande à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. Parmi eux aussi, je prendrai des prêtres et des lévites, dit l'Éternel. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois, à chaque sabbat, tout être viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mais quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront pour chacun un objet d'horreur. Ce dernier verset est, comme le terme que j'ai lu dans un article d'une revue de théologique, un verset cauchemardesque. C'est le sort tragique qui attend ceux qui persistent dans leur attitude de désobéissance envers l'Éternel. Dieu ne force pas la conversion. Dans ce texte, on imagine en quelque sorte que les gens quittent la ville de Jérusalem pour regarder ces cadavres, ces morts, pas pour se glorifier de faire partie du peuple de Dieu, mais en toute humilité de reconnaître qu'ils sont des rescapés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3, 16. Et ce qui est extraordinaire, à la fin de cette vision d'Ésaïe, c'est que maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on voit l'aboutissement de l'histoire, mais cet aboutissement de l'histoire, qui est toujours en train de se faire maintenant, concerne le monde entier. Parce que ce n'est plus simplement le peuple d'Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance, mais il s'agit du monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Et donc, on parle de Tarsis, Et normalement, on pense que Tarsis, c'est l'Espagne. On parle de Pule et de Lude, c'est l'Afrique, la Somalie et la Libye. On parle de Tubal, c'est l'Asie mineure ou sud-est de la mer Noire, du côté de l'Arménie. C'est la Grèce, ou dans certaines traductions, Javan et les îles lointaines, donc les îles de la Méditerranée et la Grèce. Et toutes ces personnes-là viennent à Dieu, à Jérusalem, et on les appelle des frères. Ça, c'est le verset 20. Ils en amèneront tous vos frères. On le voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, hein, donc Jésus, après sa résurrection, a dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Et juste avant son ascension, dans Acte 1 et le verset 8, ses derniers mots à ses disciples, c'est vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que dans Romains 15, Paul, qui a commencé à faire un certain nombre de voyages missionnaires, c'est pas le seul d'ailleurs, a pu dire au chapitre 15 et le verset 16, je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Et il dit qu'il veut aller, il a déjà fait connaître l'évangile à Jérusalem jusqu'en Illyrie, il s'est fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé. Et le fruit de tout cela, c'est ce verset absolument magnifique dans Apocalypse 5 et le verset 9. On parle donc de devant Dieu que tout le monde chante un cantique nouveau, en particulier donc les anciens qui prosternent devant l'agneau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, Ésaïe le voit, c'est le chapitre le plus missionnaire de tout l'Ancien Testament, même s'il y a beaucoup d'autres versets qui disent que le rôle du peuple d'Israël, c'était de faire connaître l'Éternel auprès des nations. Et le verset 21 qui dit que parmi eux, je prendrai des prêtres et des lévites. Bon, littéralement, ce n'était pas possible dans l'ancienne sous l'ancienne alliance, mais c'est une façon de dire que les nations, les païens, les goyim, les non-juifs, nous, qui ne sommes pas du peuple juif, notre intégration sera totale dans le peuple de Dieu. Et on adorera Dieu en toute humilité, en le reconnaissant comme Dieu tout-puissant. On se prosternera devant lui. Au verset 23. Alors, que faut-il dire? Pour terminer toute cette série dans Ésaïe, que je continue à expliquer semaine après semaine depuis 4 ans, j'aimerais revenir dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le chapitre 12 et le verset 41. Un tout petit verset qui m'a parlé ces derniers jours. Donc, on parlait de la gloire à venir pour certains, et le refus d'autres. Et Jean écrit ceci. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire, donc la gloire du Seigneur, et qu'il parla de lui. Donc, on voit très bien que Jean confirme ce qu'on dit tout au long d'Ésaïe, c'est que il a vu, surtout dans la deuxième partie de son livre, la venue du serviteur. Il a vu la venue de celui qui allait porter notre châtiment à notre place. Ésaïe 53 est merveilleux à cet égard. Et il a vu que les hommes et les femmes de toutes les nations formeront un peuple éternel pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande joie de son peuple. Amen. Merci Seigneur parce que tu as fait cela pour chacun de nous qui croyons en toi. Merci Seigneur parce que nous faisons partie de ton peuple par ta pure grâce et par ton amour. Merci Seigneur Jésus d'avoir accompli cela pour nous à la croix. Reçois toute notre reconnaissance. Amen. Mm-hmm.